RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, Hissène Habré, condamné à la prison à perpétuité. L'ancien président tchadien reconnu coupable hier de crimes contre l'humanité, de torture, de viol durant son régime entre 1982 et 1990. Les chambres africaines extraordinaires ont donc rendu leur verdict. Et c'est la fin d'un très long feuilleton politico-judiciaire démarré dans les années 2000. Une longue attente pour les victimes qui demandaient justice après 8 ans d'un règne de fer. Grand reportage revient aujourd'hui sur le système qui a été jugé derrière l'homme, un système répressif basé sur une police politique, la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité. Laurent Corot s'était rendu au Tchad avant le début du procès pour enquêter sur ce système. Je vous propose de réécouter son reportage Hissène Habré, l'obsession sécuritaire.
« 7 juin 1982, les forces armées du Nord entrent dans N'Djamena. Gukuni Wedei a dû quitter la capitale, abandonner le pouvoir. Hissène Habré ne tarde pas à faire le constat d'un État à reconstruire. »«
Tout manque cruellement. Le Tchad, c'est un pays en ruine, un pays par terre. Aucune administration, aucun moyen financier. Les fonds se sont volatilisés dans les poches et dans les comptes bancaires des uns et des autres. »
Dans ce pays déchiré par la guerre, le Sud prétend voler de ses propres ailes sous la direction d'un comité permanent qui existe depuis 1979. La normalisation du Sud sera le premier dossier du nouveau régime. Fin août 82, les troupes des FAN, les forces armées du Nord, investissent le Sud et commettent des abus qui conduisent une partie de la population à fuir en brousse. Henri Ngargos-Mosna fait partie de ceux qui partent et décideront finalement de s'organiser pour lutter.
Moi, je suis resté 3 mois, quelque part, avec l'espoir que les choses allaient changer. Mais tout ce que j'apprends, c'est que les militaires FAT, donc forces armées tchadiennes, qui ont amené les Habré au sud, on les nomme chefs par-ci, par-là, et les soldats FAN les tuent. Les militaires graissent leurs fusils et ils tirent sur les gens au champ. Ils se sentaient en terrain conquis. Il faut, comment vous appelez, les butins de guerre à gauche et à droite. On vous ramasse vos cabris, on vous ramasse vos biens. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis avec leurs fusils. Nous qui étions restés au nord de la RCA, de Markunda jusqu'à à peu près 70 km, on était 8000. Les gens se sont révoltés. On s'est réorganisé et on est revenu au Tchad.
Les groupes d'autodéfense qui s'opposent aux forces venues de N'Djamena sont ceux qu'on appellera les Kodo, des groupes que le régime va tenter d'amadouer avant de lancer, dès juin 84, une grande vague de répression. Elle culmine dans ce qu'on a appelé « Septembre noir », Henri Ngargos-Mosna.
On était naïfs, on croyait en la sincérité du gouvernement qui a envoyé des délégations négocier avec nous. On est sortis et chacun se préparer soit à reprendre son travail, nous les civils, les autres militaires qui sont engagés, soit à aller travailler. C'était ça la première négociation qu'on a eue avec le gouvernement Habré. Ça a dérapé parce qu'on commençait à nous tuer. Les militaires qui s'étaient engagés à travailler normalement avec l'État, on les tue. Les tueries de délits, de crimes, de kélo, mais c'était des tueries affreuses. Septembre noir 84 correspond aux attaques lancées par les FAN contre les Kodo et surtout contre les cadres sudistes.
Novembre 84, face à la gravité des faits commis sur le terrain, les organisations de défense des droits de l'homme commencent à faire entendre leur voix. Chantal Desormeaux, porte-parole d'Amnesty International, accorde à l'époque cette interview à RFI.
Nous avons appris que les forces gouvernementales avaient tué des prisonniers qui étaient détenus en garde à vue, qu'elles avaient également tiré sur des non-combattants, sur des civils, et ceci à une grande échelle dans le sud du Tchad. Nous avons des informations précises sur certains endroits, sur le moyen Chari notamment, où nous avons eu des témoignages directs d'informateurs qui nous ont dit qu'ils avaient assisté au massacre de fermiers qui ont été abattus dans leurs champs, ou de villageois qui avaient été tués alors qu'ils traversaient le village en camion. Et certaines personnes qui s'étaient réfugiées dans une église ont été également exécutées.
Abré, à l'époque, nie les accusations d'exactions et de massacres et il affirme lutter, dans le Sud, contre l'ombre libyenne.
Nous savons comment les maquis du Sud sont ravitaillés. Nous avons des preuves physiques. Nous avons des prisonniers qui ont été entraînés en Libye, acheminés à Cotonou, à Brazzaville, ensuite avec des passeports diplomatiques introduits par la RCA, par le Cameroun. Donc, pour mieux nous affaiblir, pour mieux assurer sa présence dans le Nord et progresser, eh bien, il faut entretenir le foyer de troubles dans le Sud du pays. Et je crois que c'est une bonne stratégie. À la place de Gaddafi, je ferai la même chose.
Où se situent les responsabilités? Quelles décisions ont relevé d'Abré? Quelles autres ont été prises par ses subordonnés? À N'Djamena, la question embarrasse toujours, 30 ans plus tard. De 83 à 85, Idriss Déby, l'actuel président tchadien, était en effet commandant en chef des forces armées nationales du Tchad. Le Sud n'est pas le seul dossier que Abré doit gérer. Quelques mois après le départ du Gunt de N'Djamena, la Libye et ses alliés décident en effet de reprendre la lutte armée. Gukuni Wedei se souvient.
Nous avons tenu une réunion avec presque l'ensemble de l'opposition tchadienne. C'est-à-dire il y a des représentants des FAT, des CDR, de la première armée, du volcan, etc., etc. Et au cours de cette rencontre, il y a eu divergence. Mamadou Abba, de la première armée, mais par contre, les autres se sont tous entendus pour former un gouvernement et relancer la lutte armée.
Le pouvoir de N'Djamena s'organise lui aussi. Il instaure par décret le 26 janvier 1983 la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité. Une police politique qui va rapidement étendre ses réseaux, appliquer l'arbitraire et la torture. La feuille de route qui lui est fixée annonce déjà les excès à venir. Reid Brody de Human Rights Watch.
Le décret qui a créé la DDS. Nous décrit la mission de la DDS et dans l'article 4, on voit par exemple la collaboration à la répression par l'établissement des dossiers concernant des individus, des groupements, collectivités suspectés d'activités contraires ou seulement nuisibles à l'intérêt national.
Les agents de la DDS adoptent une lecture très large de ce qui peut être nuisible à l'intérêt national. Un rien suffit à déclencher une arrestation en dehors de tout cadre légal. Jacqueline Moudaina, coordonnatrice de l'équipe d'avocats des victimes.
Pour être arrêté sous Hissène Abré, il ne suffisait pas de grand-chose. Il suffit d'être un parent d'un opposant qui est en exil. Il suffisait de le connaître simplement, même pas être son parent. Ou alors même être de la même ethnie, ça suffisait.
C'est-à-dire qu'on peut se faire arrêter pour un oui, pour un non?
Ouais, c'est bien pour un oui, pour un non qu'on est arrêté. Les motifs étaient vraiment fallacieux.
Est-ce que les arrestations donnaient lieu à des poursuites judiciaires?
Il n'y avait aucune poursuite judiciaire à l'époque. Sur des milliers de personnes qui étaient arrêtées, personne n'a été présenté à un juge. Personne.
Les détenus vivent entassés dans les cellules. Beaucoup sont torturés, comme a pu le constater le docteur Hélène Jaffé de l'association Havre, qui est venue au Tchad prendre en charge des victimes de l'ère Abré.
Nous avons vu des gens qui avaient des séquelles, à la fois de mauvaises conditions de détention et des tortures. Alors les tortures, qu'est-ce qu'elles étaient? La plus fréquente, arbatachar, c'est-à-dire les chevilles et les coudes ramenés dans le dos, la colonne vertébrale arc-boutée, c'était extrêmement douloureux et ça laissait des séquelles. D'autres tortures, attacher la tête en bas, immersion dans de l'eau sale, quelque chose de particulier au Tchad, j'en avais pas entendu ailleurs, c'était le supplice des baguettes qui consiste à mettre des baguettes de chaque côté du crâne, les attacher devant, derrière, et on serre de plus en plus. Quelque chose d'atroce, les gens en meurent très souvent, et ceux qui ont été témoins de cette torture en gardent un effroi terrible.
De l'aveu même d'un de ses anciens directeurs, Saleh Younous, les objectifs de la DDS évoluent avec le temps. La structure devait au départ contrecarrer toute action des Libyens contre le Tchad, mais progressivement, le président lui-même lui donne une nouvelle orientation et en fait un instrument de terreur. Les autorités mettent en place un véritable culte de la personne autour du président. El Hadji Senabré, héros national, proclame un chant qu'on peut encore trouver dans N'Djamena sur de vieilles cassettes. Abré est ici, Abré est là, Abré est partout, dit une autre chanson écrite à la gloire du chef de l'État. Plusieurs témoins décrivent aussi l'existence de cercles de décision parallèles au gouvernement. Le Ain Galaka notamment, un groupe que Galin Gotegata, ancien conseiller spécial de Abré, dit avoir vu opérer.
On constatait un certain nombre de réunions et de rencontres parallèles par rapport au fonctionnement normal d'une administration. Par exemple, vous pouvez venir et puis trouver le président Abré entouré d'un certain nombre de personnes, alors qu'il venait d'horizons divers et rien ne pouvait sembler montrer que c'était une réunion technique. Par exemple, à propos effectivement de l'effort de guerre, quand il m'a appelé pour me demander mon avis, j'ai trouvé là des gens qui n'étaient pas des fonctionnaires de la présidence. Certains venaient des postes, d'autres venaient un peu du secteur pétrolier, certains étaient des hauts responsables d'entreprise. Et c'est après ma sortie de prison que l'information sur la structure Ain Galaka va se diffuser. Et donc les images de ces rencontres, je peux dire inopportunes, m'ont révélé effectivement qu'il existait un groupe parallèle qui était autour de Abré pour décider de certaines questions dites stratégiques.
Le Parti unique, l'UNIR et ses structures satellites sont mis à contribution pour fournir du renseignement. L'OFUNIR, qui rassemble les femmes, le Rajeunir, qui rassemble les jeunes. Garleji Yorongar était à l'époque l'un des commissaires du comité central de l'UNIR.
La plupart des services de l'UNIR sont transformés en délateurs. Surtout la jeunesse, le Rajeunir. Le Rajeunir, c'est un service de délation. L'organisation des femmes, c'est un service de délation. Ils dénoncent tout ce qui critique le régime ou tout ce qui ne sont pas d'accord avec les pratiques en place. Et ça peut vous coûter la vie. Il y a eu beaucoup de morts qui sont des morts innocentes, qui n'ont rien fait, absolument rien fait.
La définition de l'ennemi évolue également avec le temps. Quand fin 86, le leader Adjeraï, Maldom Bada, entre dans la clandestinité et fonde un mouvement politico-militaire, le Mossanat, tous les membres de l'ethnie Adjeraï sont considérés comme des menaces potentielles. En avril 89, trois leaders d'ethnie Zagawa, anciens alliés de Abré, entrent à leur tour en dissidence. Hassan Djamous, le chef d'état-major, Ibrahim Amatitno, le ministre de l'Intérieur, et Idriss Déby, qui est conseiller militaire. Les Zagawa sont à leur tour pris pour cible par la répression. Le professeur Zakaria Fadoul-Kitir se souvient d'un face-à-face lourd de sens avec les hommes de la DDS.
On m'a amené devant le commissaire Mohamed El Dionto, et moi j'étais très faible. On m'a donné une chaise devant sa table. Ses agents étaient debout, à droite et à gauche. Et il me dit, mais vous ne savez rien de ce qui se passe en ville. Moi, j'ai dit, mais monsieur le commissaire, je sais que des gens sont arrêtés, d'autres fuient la ville. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne me reproche de rien. Qu'est-ce qu'il est pour vous, Hassan Djamous? Je dis, mais c'est un beau-frère. Et Idriss Déby, c'est un parent. Tu sais très bien qu'on a pris Hassan Djamous. Monsieur le professeur, la responsabilité est collective.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Il veut dire tout simplement que si un seul Zagawa dans l'ethnie Zagawa fait quelque chose, la responsabilité vous incombe aussi. Ça, c'est la conception même de la responsabilité chez les nomades. Par exemple, vous prenez un cas quand il y a un meurtre. Si quelqu'un, soit par inadvertance, soit avec intention de tuer, tue quelqu'un, on tue n'importe quel parent, proche ou lointain. Parce que la responsabilité est collective. Tout le monde paye pour le fautif.
L'appartenance à la communauté Zagawa suffit à rendre un homme suspect. Des civils sont arrêtés, d'autres exécutés. Une commission est même créée pour la répression des Zagawa, comme cela avait déjà été le cas pour les Adjeraï. Les survivants des prisons d'Abré portent dans leur chair et dans leur mémoire l'histoire de ces années. Robert Hyssen Gambier est leur doyen. Il a compté les compagnons de cellules qu'il a vus partir, les uns après les autres. La force qui lui a permis de traverser la torture lui a valu un surnom, Saba Galmout, celui qui court plus vite que la mort.
La mort vient, il attrape les gens, mais on... il ne m'a jamais attrapé. C'est pour cela. Ils m'ont torturé là deux fois, non, même 3 heures du temps, 4 heures du temps. Tu veux la mort, mais la mort ne peut pas venir. Tellement que ça fait mal, toute la douleur. Et mes testicules complets, ils m'ont tiré. C'est devenu impuissant. Les yeux enflés, j'ai perdu un œil, un coup de pied. Comme une pointe là, on m'a tiré une pointe là.
À la main
ici. Oui, à la main ici. Comme que voici la trace.
Arrestation arbitraire, torture, exécution sommaire. 30 ans après, les victimes et leurs proches réclament justice. Ce sont leurs histoires qui seront examinées par les chambres africaines extraordinaires. Hissène Abré, l'obsession sécuritaire, un reportage de Laurent Corot réalisé par Eva Moschinski avec Karine Franck à Dakar.
Bonjour Laurent Corot.
Bonjour.
Vous aviez réalisé ce grand reportage avant l'ouverture du procès d'Hissène Abré. Depuis, donc, l'ancien président a été jugé par les chambres africaines extraordinaires. Il vient d'être condamné à la prison à vie. Comment s'est déroulé le procès qui a conduit à cette peine ?
Eh bien, les différents témoins ont été entendus autour de 3 moments de la répression du régime. La répression dans le sud du Tchad, celle de l'ethnie Adjiraï, puis celle des membres de la communauté Zagawa. Les chambres africaines extraordinaires ont également entendu des témoins sur la question des prisonniers politiques et la question des prisonniers de guerre. Un repenti de la DDS, Banjim Bandoum, a confirmé la pratique systématique de la torture par la police politique de Abré et il a parlé d'un système d'annotation sur les fiches de renseignement des personnes arrêtées. Il a assuré qu'Hissène Abré lui-même pouvait faire figurer sur ses fiches la mention E pour exécution, L pour libération et V pour vue. Et puis différents experts sont aussi venus témoigner. Le juge belge, par exemple, qui avait déjà enquêté sur l'affaire Abré, un graphologue, des experts légistes ou encore le docteur Hélène Jaffé qu'on entend dans ce reportage et qui a soigné des victimes juste après la chute du régime.
Et on se souvient notamment du témoignage de ces femmes qui ont osé parler du viol dont elles ont été victimes.
Oui, des femmes qui ont expliqué à la cour qu'elles avaient été utilisées comme esclaves sexuelles par les forces pro-Abré sur la base de Wadi Doum ou victimes d'abus sexuels par des membres de la police politique, la DDS. Une femme a affirmé avoir été violée par Abré lui-même et la cour a accordé une importance particulière à son témoignage.
Abré personnellement mis en cause par plusieurs témoins.
Oui, différents témoins ont déclaré l'avoir personnellement rencontré en prison ou avoir été envoyé en prison par lui. Un expert graphologue a fait le lien entre l'ancien président et des annotations sur différents documents de la DDS. Il a notamment identifié son écriture dans une note disant que désormais aucun prisonnier de guerre ne doit quitter la maison d'arrêt sauf cas de décès.
Et s'agissant des prisons du régime, un expert a d'ailleurs prouver à quel point elles étaient destructrices.
Oui, cet expert a analysé de manière statistique une partie des archives de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, et il en a conclu que la mortalité dans les prisons tchadiennes sous Abré était entre 90 et 400 fois plus élevée que le taux de mortalité au Tchad à la même époque. La mortalité des prisonniers tchadiens sous Abré, en fait, était supérieure à celle pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats allemands dans les prisons soviétiques ou des militaires américains dans les prisons japonaises.
Et quelle a été la stratégie de défense de Abré face à tous ces témoignages ?
Eh bien, il s'est muré dans le silence, enroulé dans un turban, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Il a refusé de donner sa version des faits, de s'expliquer sur le système qu'il a mis en place. Ses avocats même ont refusé de plaider au point qu'il a fallu avoir recours à 3 avocats commis d'office.
Hissène Abré, l'obsession sécuritaire. Votre grand reportage, Laurent Corot, est à retrouver, à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr.
RFI, la sélection.